FM, 11h midi, Studio B avec Christophe.
Bonjour, bienvenue dans Studio B, l'émission qui donne envie d'aller au ciné. Je suis ravi de vous retrouver sur Beurre FM. Après ces quelques mois, on va dire, de pause, on se retrouvera comme l'an passé, tous les dimanches, entre 11h et midi, pour parler cinéma, séries, documentaires et films de plateforme. Bref, de tout ce qui se regarde. On a gardé les mêmes rendez-vous, un panorama complet des sorties de la semaine pour commencer l'émission, le box-office et toutes les actus ciné de la semaine aux alentours de 11h30. Et bien sûr, en fil rouge, l'interview de notre film de la semaine. Et on commence avec un film dont Beurre FM est le fier partenaire cette semaine en salle depuis mercredi, Ma part de Gaulois, un film inspiré du livre du même nom sorti en 2016 par Magid Cherfi du groupe Zebda, un livre autobiographique qui raconte l'enfance du chanteur, une enfance de fils d'immigrés dans la banlieue toulousaine dans les années 70-80. On y voit l'ambiance du quartier de cette époque, la solidarité, l'entraide entre les habitants, la place de l'école, le milieu ouvrier et la politique aussi, sans oublier le personnage essentiel du film, la mère, omniprésente, qui n'a qu'un seul but, donné à son fils les meilleures conditions pour qu'il ait son bac, ce qui serait un vrai événement dans le quartier. Pour en parler avec nous, on a la chance d'accueillir Adila Bendimerad qui joue le rôle de la mère. Bonjour Adila.
Bonjour Christophe.
Et bienvenue sur Beurre FM, on est ravis de vous retrouver puisque vous étiez venu au printemps dernier nous parler de La Dernière Reine. Avec nous également Magid Cherfi. Bonjour Magid.
Bonjour.
C'est donc vous qui avez écrit le livre dont s'inspire le film et vous avez aussi composé la musique du film. C'est vous. Voilà. Bonjour et bienvenue tous les deux sur Beurre FM. Vous êtes les bienvenus. On a une tradition dans l'émission, on va la garder, c'est de demander à nos invités, de proposer à nos invités en tout cas, de choisir deux questions. Une question que vous voulez qu'on vous pose et on vous la posera, et une question que vous ne voulez pas qu'on vous pose, celle-là on vous la posera pas. Je sais pas comment répartit les rôles. Peut-être Adila, vous pouvez trouver la question que vous ne voulez pas qu'on vous pose.
Alors, la question que je veux pas qu'on me pose, c'est: est-ce que t'as bien dormi?
Parce d'accord.
J'en ai marre de me plaindre.
Ah, et puis c'est tôt en plus là. Pour un dimanche.
Pour un dimanche.
Imaginez-vous peut-être la question que vous voulez qu'on vous pose.
Quand est-ce que tu repars en Algérie?
Ah bah tiens, bonne question.
Eh ben voilà.
Alors quand est-ce que...
Non, on la garde pour un peu plus tard.
D'accord, suspense.
Voilà, suspense. Comme ça, les gens y restent après. Voilà,
c'est...
Oui. C'est des techniques de radio, ça. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue donc dans ce 125e numéro de Studio B.
Studio B, les sorties ciné de la semaine.
Et avant l'interview, donc, les sorties ciné de la semaine, cette semaine sort Le Dernier Jaguar. Donc, ça sort ce mercredi. Film d'aventure où on suit une petite fille nommée Autumn qui grandit avec sa famille dans la forêt amazonienne. Un jour, on lui présente une sorte de gros chat.
C'est un bébé jaguar. Je vais t'appeler Hope. Je serai là pour te défendre.
Quelques années plus tard, alors qu'elle a dû retourner avec sa famille vivre dans une grande ville à New York, en l'occurrence, son père reçoit des nouvelles assez inquiétantes d'Amazonie.
Cher Doc, la situation s'aggrave de jour en jour. Il ne reste qu'un seul et unique jaguar dans la région.
On doit aller la sauver.
Ça fait 8 ans qu'on a quitté la jungle. On n'ira nulle part.
Ouais, sauf qu'Opton a grandi, la petite fille, elle a grandi, c'est maintenant une ado, et que son amitié pour le jaguar est plus forte que les interdictions de son père.
Vous êtes venus tous les deux, malgré tout.
C'est ma prof de biologie. Elle me suit depuis New York. Il faut vraiment qu'on appelle ton père.
Avec sa prof de bio embarquée un peu malgré elle, on va dire, dans l'aventure, elles vont se retrouver confrontées à des trafiquants d'animaux sauvages. C'est donc le film Le Dernier Jaguar qui est réalisé par le français Gilles Demestre, qui avait déjà tourné d'autres films d'aventure avec des enfants et des animaux, notamment Mia et le lion qui parlait de la chasse au lion, et Le Lion et le Loup qui parlait des animaux dans les cirques. Le sujet est cette fois la destruction de la forêt amazonienne et le trafic d'animaux. Autre film qui sort aussi ce mercredi, c'est Cocorico avec Christian Clavier, Didier Bourdon et Sylvie Testu. C'est un peu la comédie de la semaine, bande annonce.
Bon, t'es prête pour la rencontre?
Je suis ravie de rencontrer les parents d'Alice. C'est que ton père et moi, on n'est pas du genre à faire des manières. Hein.
Alors, elle vous plaît? Voilà la beauté.
Je l'ai empruntée à la concession, elle est même pas encore en vente, hein, c'est une merveille.
Tu sais, papa, ça sert à rien de vouloir impressionner les bouviers sauvages.
Bon, allez.
Bah alors, vous allez voir les vignes, c'est là qu'ils font leur vin depuis des centaines d'années.
On a bien fait de s'habiller un peu quand même.
Frédéric Bouvier Sauvage, enchanté.
Si on a organisé cette rencontre, c'est pour vous dire que François a demandé ma main et que j'ai dit oui, on va se marier.
On a un petit cadeau pour vous. Le labo où je travaille est américain. Ils nous ont offert des tests ADN. C'est un test qui détaille toutes vos origines. Les résultats, les voilà.
Notre test ADN, il est sur les murs de ce château.
Nous sommes en France depuis Louis VI le Gros.
Enfin, moi, je suis français depuis toujours. Alors, si ça peut vous faire plaisir, j'ai rien à cacher, moi.
Alors, qui commence?
Oh putain.
Qu'est-ce que c'est que cette connerie?
Qu'est-ce qu'ils ont bien pu découvrir dans ces tests? Et bien pour le savoir, il faudra aller voir le film. Il n'y a aucune autre info qui est sortie dessus. C'est donc le Cocorico qui sort aussi ce mercredi. Et enfin, Elaha. Elaha, c'est le prénom d'une jeune femme d'origine kurde de 22 ans. Elle a pour projet de se faire reconstruire l'hymen afin de paraître vierge lorsqu'elle se mariera. Elle était déterminée, mais finalement elle doute. Elle se demande pourquoi finalement elle doit paraître vierge et surtout pour qui? Pour elle ou pour les autres? Une histoire de dilemme entre tradition et désir d'indépendance, inspirée à la réalisatrice par la découverte d'un produit conçu pour aider les femmes à assimiler leur prétendue virginité à l'aide de capsules de faux sang. Voilà pour ces trois films qui sortiront mercredi prochain. Il est temps de parler du film qui est déjà dans les salles.
Studio B, l'interview.
Notre interview de la semaine, c'est donc le film Ma part de Gaulois en salle avec Beurre FM depuis mercredi. Film de Malik Chiban avec Adila Bendimerad, avec Abdallah Cherki et Lies Salem au casting. Film dont la musique est composée par Majid Cherfi qui a écrit le livre dont s'inspire le film. On va peut-être proposer à Adila, qui est donc notre invitée, de résumer le film. Si je vous demande de faire le pitch du film, comment vous le résumeriez?
Oh, alors oui, c'est l'histoire d'une famille, d'une femme et son fils, et d'une femme qui va oser avoir de l'ambition pour son fils, et peut-être même à travers lui un peu pour elle. Sauf que lui, en fait, il va aller plus loin que ça. Elle va essayer de lui donner la chance de pouvoir accéder au lycée, mais sauf que lui, en fait, il va créer la surprise. Et je trouve en cela qu'il est assez révolutionnaire, ce petit garçon.
Il va faire mieux, en fait, presque,
ouais,
c'est ça.
Il va faire mieux.
Il va faire au-delà des espérances de sa mère. Majid Cherfi, donc le film est adapté de votre livre du même nom qui était sorti en 2016. C'est une adaptation libre. Quelles sont les différences entre votre roman et le film?
Je pense que Malik Chiban a fait un film plus poétique. En ayant axé davantage son récit sur les parents, alors que le livre, il est peut-être un peu plus grinçant, avec davantage de scènes sur l'aventure du héros avec ses potes, la construction du groupe. Pour moi, voilà, la différence est essentiellement là.
Donc c'est Malik Chiban, hein, si j'ai bien compris, qui vous a contacté pour adapter le livre. Vous n'avez pas participé à l'écriture du film. Est-ce que c'est lui qui voulait l'adapter librement ou est-ce que c'est vous qui avez préféré lui laisser carte blanche?
Non, c'était sa volonté à lui. Il m'a tout de suite parlé d'une libre adaptation. Donc moi j'ai tout de suite compris que le film allait avoir une autre sensibilité que la mienne, même si les fondamentaux sont là, entre l'aventure d'une mère et de son fils. Donc voilà, j'ai dit ok, et je me suis mis à distance pour ne pas attendre que le film ressemble au livre à tout prix. Et donc ça m'a posé aucun problème d'avoir un autre regard sur ma part de Gaulois.
Après, il y a une petite différence, c'est pas n'importe quel roman, c'est un roman quand même assez autobiographique. Est-ce que ça fait pas un peu bizarre de confier sa vie, quelque part, puisque c'est un roman autobiographique, à quelqu'un? Est-ce que vous n'aviez pas un peu d'appréhension sur le rendu, sachant que c'est quand même votre histoire quand même qui est racontée?
Oui, c'est mon histoire, mais en même temps, cette histoire que l'on raconte, c'est une histoire universelle, donc ça ne m'a pas choqué outre mesure. L'histoire d'une mère qui veut porter son fils et qui au passage essaie de s'élever elle-même, c'est une histoire universelle, donc je n'étais pas plus gêné que ça.
Comment vous connaissez le travail de Malik Chiban? Comment s'est fait la rencontre entre vous?
Alors moi je connaissais l'œuvre de Malik Chiban parce que je m'intéresse beaucoup au travail que font les gens issus de l'immigration en général, et j'ai compris que par exemple Malik, je pense qu'il s'est identifié à mon personnage dans le livre, quelqu'un voilà qui naît en France ou quasi et qui s'élève et qui a un parcours plutôt singulier. Lui, il est devenu cinéaste, moi je suis devenu rocker. Et on a un peu une même histoire, c'est-à-dire l'histoire de quelqu'un qui arrive à faire vivre ses rêves et qui ne subit pas sa vie, mais qui la construit à travers vivre de sa passion, en fait. Il a réussi à vivre de sa passion et c'est ce que j'ai fait moi-même.
Adila, vous jouez le rôle de la mère de Mourad, qui est donc le personnage inspiré par la mère de Majid. Comment est-ce qu'on prépare un rôle d'un personnage réel ?
Mais alors justement, parce que c'est un personnage réel, j'ai eu très peur et du coup j'ai essayé au contraire de me rapprocher de plus de pourquoi ce film me parlait. C'est-à-dire quand j'ai eu le scénario, effectivement c'est une histoire universelle. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en tant qu'Algérienne, et en plus qui m'intéresse à la question de l'immigration, mais aussi je me suis beaucoup intéressée à l'histoire de la scolarisation chez les Algériens pendant le colonialisme, après l'indépendance. Et donc c'est aussi une histoire algérienne pour moi qui était importante, et une histoire universelle de mère. Et moi-même... je me suis inspirée de ma mère. Et arrivée sur le plateau, j'ai bien compris aussi que Malik s'inspirait de sa mère aussi. Et les gens qui voient le film me disent « Oh, ça me rappelle ma mère oui. !» Donc il y a bien quelque chose qui est aussi à nous, tous.
C'est un peu... Oui, c'est une mère pas universelle, mais qu'on peut retrouver dans beaucoup de personnages de mères qui ont réellement existé.
Oui, 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 qui ont réellement existé. Et puis dans ce cas, c'est très touchant parce que c'est une mère qui ne sait pas lire et écrire et qui va quelque part passer son bac, elle aussi. C'est-à-dire, elle a tellement le désir, entre guillemets, de se venger, mais c'est pas dans le sens vengeance, dans le sens « Ah, j'ai pas eu ça, j'ai eu cette frustration, je vais peut-être le vivre à travers mon fils. » Et ça, je l'ai beaucoup vu en Algérie, dans la génération de ma grand-mère, par exemple. C'était très important après l'indépendance, puisque les enfants indigènes n'avaient pas accès aux mêmes écoles que les Européens. Nous, on avait accès aux écoles où on nous ouvrait surtout la porte pour les travaux manuels. Donc c'était pour ceux qui voulaient faire autre chose, c'était compliqué. Et j'ai compris après que dans l'histoire de l'immigration, c'était ça aussi, c'est-à-dire on envoyait souvent les élèves faire un CAP, dans des travaux manuels. Et c'est ce que dit le personnage du père. Il dit nous, on a deux cerveaux. Hein. Il parle des muscles, des bras. Bon, mais ça c'est mon interprétation. Oui. Hein. C'est moi comment je vis le film. Et donc c'est vrai que je me souviens que la génération de mes grand-mères, c'était, elles poussaient leurs fils et leurs filles à aller à l'université, à passer le bac, parce que c'était aussi une façon de continuer la libération du pays.
Et puis il y a aussi sur votre personnage, elle vient d'une famille qui est très lettrée, elle parle de son grand-père.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est assez inspiré de je crois de la famille de Malik Chibane, coup, de sa
le
mère.
Le réalisateur.
Mais après moi, ça me parlait aussi parce que c'était aussi le cas dans ma famille. Et elle parle aussi de cette rupture avec l'école. C'est-à-dire qu'elle, et ça, c'est beaucoup arrivé. C'est-à-dire que pendant la guerre d'indépendance, tout a un peu explosé. Il y a eu ces sacrifices-là. C'est-à-dire qu'il y a eu des étudiants. Le très peu d'étudiants qu'on avait, on les a rappelés au pays. Il y a eu des arrêts comme ça de transmission. Et puis voilà, il y a toute l'histoire de l'illettrisme. C'est-à-dire que on vient aussi d'une histoire, enfin, parce que moi je viens de là-bas, donc je raconte beaucoup de ce qui vient de là-bas. Mais
presque à la première personne.
Oui, c'est vrai. Oui. Il y a eu toutes ces écoles pendant le colonialisme qui ont été rasées. En fait, tout le monde savait lire et écrire. Il y avait le madrasa, le msid, qui était construit quand même avant la mosquée. Et tous les enfants savaient lire et compter. Et le colonialisme a fait qu'à un moment, tout s'est arrêté. Voilà, ça c'est l'histoire de la scolarisation, moi, qui m'a toujours beaucoup touchée. Donc quand je lis le film, je découvre aussi l'histoire des nôtres qui ont émigré. Et je trouve une logique aussi à ça. Et ça me parle et j'ai envie de défendre le film, oui.
Ma part de Gaulois, c'est en salle. Vous pouvez aller voir dès aujourd'hui, puisque le film est en salle depuis mercredi. Donc voilà, et vous terminez l'émission et juste après, paf, vous réservez vos places de ciné. Le film vaut vraiment le coup. Ça s'appelle Ma part de Gaulois de Malik Chiban avec Adila Bendimerad et Elias Salem notamment. Et puis on n'oublie pas non plus Abdallah Sharki sur un film tiré de votre livre Majid Sharfi. Vous restez tous les deux avec nous. On revient dans quelques secondes sur Beurre FM.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe.
Merci d'être avec nous comme chaque dimanche dorénavant. On est de retour sur Beurre FM pour Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. On parle aujourd'hui du film Ma part de Gaulois, film de Malik Chiban qui est en salle aujourd'hui. On retrouve Adila Bendimerad et Majid Sharfi juste après avoir écouté la bande-annonce du film.
Comment tu fais de quoi ?
Ton passage en quatrième.
Maman, c'est pas possible. Tu vas pas faire une fête à chaque fois que je passe dans une classe. Tu me mets la pression.
Allô ? Mourad a été admis au sein de l'établissement seconde générale.
Mais attention, dans un bon lycée, il devra travailler encore plus.
Je veux peut-être savoir, t'as laissé ta Mourad. Même pas ouais, Kailouche.
Alors, c'est comment dans ton nouveau lycée chez les Bourges ?
Moins 7.
Il faudrait l'aider avec un étudiant.
Je vais le trouver.
C'est à cause de ton bac de merde, là, que s'embrouille.
C'est toi le rapport ?
Je crois que ton étudiant, il est payé avec des macroutes ou quoi ?
Le lycée, c'est pas fait pour moi. C'est pas ma faute si t'as jamais de jeunesse, maman. Moi, j'ai envie d'en avoir une.
Rejeté français pour la machine à laver d'yelk. Remettez Mourad, Khrashi, Michel.
Écris-nous quelque chose. Un truc qui tue. Et moi, je serai ni avocat, ni médecin.
Balaka.
Ma part de Gaulois qui est donc en salle depuis mercredi. Un film qui se passe, on va dire, sur la fin des années 70, même jusqu'au début des années 80. Adila, je crois que vous êtes arrivée en France dans les années 90, si je me trompe pas. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Vous êtes donc d'une génération qui n'a pas connu ces années 70. Est-ce que c'est peut-être un dialogue entre ces deux générations, entre la vôtre et puis la vôtre, Majid? C'est une manière de faire dialoguer les deux générations. Je sais pas qui c'est qui veut répondre.
Vas-y, Adila, je t'en prie.
Alors oui, moi je suis arrivée dans les années 90 et je suis restée 10 ans en France et je suis retournée ensuite en Algérie. Donc je crois que c'est aussi une autre histoire d'immigration parce qu'il y a eu différentes vagues selon les contextes historiques et le contexte des années 90 a vu partir beaucoup de familles algériennes dans le monde et surtout en France, mais beaucoup de ces familles-là sont retournées en Algérie en fait, beaucoup. Et donc quand je suis arrivée, j'ai rencontré, c'est-à-dire que j'ai rencontré les enfants d'émigrés. Et je ne connaissais pas du tout hein, cette histoire.
Vous avez découvert des choses sur ces années 70 en faisant ce film ?
Ah oui, déjà moi quand j'étais arrivée en France, oui. J'avais rencontré des enfants qui me disaient qu'ils étaient algériens. Je les trouvais très français et ensuite je les trouvais très algériens. Enfin, j'ai compris le lien entre nous. Moi, je parlais arabe, je parlais pas français d'ailleurs. Je parlais pas du tout la langue et j'ai dû être dans une classe pour apprendre à la langue. Donc j'étais la blédarde. Voilà, non, mais c'est vrai. Donc j'ai senti aussi qu'ils avaient besoin d'avoir ce contact avec le pays, surtout que dans les années 90, il y avait moins d'aller-retour. Ils ont été quand même privés de la terre des parents et des grands-parents. Ils y allaient beaucoup moins.
Les voyages étaient plus difficiles à cette époque-là.
Voilà. Et bien sûr que du coup, j'étais arrivée à Nanterre. Nanterre, c'est une ville importante dans l'histoire de l'immigration. Donc au fur et à mesure des années, je les ai découverts. C'est les nôtres, en fait, qui sont partis et qui ont eu un autre destin. Mais notre lien est très fort.
Le film est tourné avec des procédés qui peuvent donner par moment un effet conte. Mais j'ai eu une impression quand même globale qui ressort du film de vie beaucoup plus douce dans les quartiers avec beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide, un rapport à l'école totalement différent par rapport aux années 2020. Est-ce que c'est une version un peu édulcorée de la vie en banlieue dans les années 70 ou est-ce que finalement c'était mieux avant? Peut-être Majid, parce que c'est...
Alors, c'était mieux avant, non, je crois pas. Nos grands-parents ont souffert en France, nos parents ont souffert. Nous-mêmes, on n'a pas senti, si tu veux, qu'on nous susurrait à l'oreille « Bienvenue ». Et mes propres enfants, d'ailleurs, sont à la quête d'un refuge aussi, puisqu'il y a cette air de « Ah, vous êtes de passage, c'est ça ?» Non, on n'est pas de passage. Donc, voilà.
Donc, c'est peut-être l'effet du film, l'effet conte qui adoucit peut-être le tout ?
Oui, mais je pense que les quartiers méritent leur conte aussi, leur conte urbain.
Bien sûr.
C'est-à-dire que je trouve que c'est un vrai pas dans le cinéma ciné-banlieue. Le cinéma de la banlieue, le cinéma des quartiers, le cinéma de l'immigration. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de films très naturalistes avec un regard très sociologique parce qu'il fallait comprendre. Et puis, il fallait faire comprendre aux autres qui ne sont pas des beurs. Comment on vit, donc il y a ce regard très sociologique, mais la Malick qui propose du cinéma, et je trouve que c'est un conte aussi. Il a une mise en scène très, très originale, très subjective, et les dispositifs de mise en scène nous ont sortis de ce naturalisme, et ça permet aussi de créer la mythologie des quartiers, l'image des quartiers, les contes des quartiers, parce que c'est ce qui construit aussi les générations à venir, et c'est ce qui fait aussi ça, c'est du langage de cinéma. Nous, en tout cas, on a adoré ça en tant qu'acteurs, c'est-à-dire qu'à un moment, oui, il y en a qui sont algériens d'origine qui ont envie de raconter cette histoire, mais à un moment on est sur un plateau de cinéma et Malick, ce dont il nous parle, c'est de cinéma, et donc nos enjeux très concrets, c'est la mise en scène, le jeu d'acteur, la comédie, l'émotion, et il a rompu avec cette question naturaliste pour apporter du cinéma dans les quartiers. Et c'est vrai que quand j'ai vu le film, quand j'ai découvert le film...
Parce que vous l'avez découvert récemment.
Oui. Oui, parce que j'aime pas regarder des liens. J'aime bien avoir le trac, être malade juste avant la projection parce que j'ai le trac.
Ah, puis le cinéma, c'est nous au cinéma, de toute façon.
Voilà, il y a le public. Et puis là, il y avait une belle occasion. C'était que la première du film était à l'Alpe d'Huez, donc c'était de bonnes conditions d'avant-première.
Un grand festival qui a lieu, voilà. Le festival de la comédie à l'Alpe d'Huez au mois de décembre tous les ans.
C'est ça. Et c'était très émouvant d'être surprise par le film. Voilà. C'est très émouvant. C'est vrai que tout le monde pleure un petit peu à la fin de ce film. Ouais.
Oui.
Il y a toujours une petite larme.
Oui, parce que c'est une comédie, mais c'est aussi émouvant. Il y a beaucoup d'émotions. C'est un film qui est touchant.
C'est très touchant. Entre l'histoire de l'amitié entre les deux copains.
Oui.
L'histoire du garçon, du héros avec sa mère, la mère avec le père envers sa famille, c'est très émouvant.
On parlait de un peu d'histoire entre guillemets. Il y a une scène qui m'a frappé, et c'est un passage qui est aussi dans le livre, je crois, Majid. C'est l'élection de François Mitterrand en 1981, que Mourad suit avec ses parents à la télé. C'est donc le fameux 10 mai 1981. On pourrait croire que le milieu populaire, on va dire, auquel ils appartiennent, serait heureux de cette élection, mais pas du tout, Majid.
Oui, absolument. C'est parce que c'est un souvenir assez fort dans ma vie, l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et j'ai autour de moi des copains de lycée gauchistes, progressistes, qui me disent, tu vas voir Majid, Mitterrand va être élu, le racisme va disparaître de la surface de la terre, on va être frères, ça va être génial. Et je rentre à la maison le soir et mon père dit à maman, tu fais les valises, François Mitterrand va être élu. Et je reste comme ça un peu stupéfait jusqu'à ce que je comprenne que mon père avait gardé en mémoire un François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, je crois en 1954, qui avait fait couper la tête à tous les résistants algériens. Et lui-même ayant perdu 4 frères, il restait traumatisé. Et je me suis dit, ouais, il faut que je raconte ça parce que on pense, on a telle idée de la gauche, mais, ou en tout cas de cet homme de gauche. Et il a été autre chose précédemment.
Enfin, une dernière question, Malick Chirvi, avant de vous libérer. Vous n'avez pas participé à l'écriture du film, mais Malick Chirvi vous a demandé de créer la bande originale du film. Il y a plusieurs styles différents selon les moments du film. Il y a aussi des titres existants. Comment s'est passée cette phase d'écriture de la musique ?
Que j'adore.
Merci Adila.
Vraiment.
Ça a été évidemment... pour moi, un plaisir incroyable, ne serait-ce que de bâtir des musiques sur de l'image. C'est un peu un rêve d'adolescent. Et donc j'y ai proposé plein de trucs, je l'ai noyé de musique rock à la française, un peu plus orientale, un peu charbie. Et donc il avait un choix incroyable et il a fait son choix et c'était voilà, un ravissement.
Vous allez au cinéma souvent, vous avez participé plus ou moins de loin à quelques films, vous avez fait quelques apparitions dans des films, là votre livre est adapté en film, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait, écrire un scénario, peut-être tourner, peut-être être acteur?
Oui, je dois vous dire qu'avant le rock'n'roll, je me destinais au cinéma. D'accord. Il se trouve que j'ai raté la FEMIS il y a plus de 20 ans de ça. J'ai raté des écoles, des concours qui ne m'ont pas permis d'aller dans cette voie-là. Mais oui, j'ai une grosse, grosse envie de porter moi-même un film, bien sûr.
Mais allez, allez.
Notamment, mon dernier bouquin, La vie de ma mère, là, je commence à le voir en image. Et je vais peut-être m'y atteler.
Alors justement, on va peut-être en dire deux mots, parce que vous sortez un livre aussi en ce moment.
Oui, il est sorti le 3 janvier.
Voilà.
La vie de ma mère. Et alors, je rencontre une mère qui est désormais âgée et dont le fils a maintenant plus de 50 ans. Et donc, voilà, ça m'a intéressé, le rapport fils-mère. Mais quand on est soi-même en tant que fils en fin de parcours, avec une maman avec qui il veut faire connaissance, voilà.
Et avant de vous laisser partir, Majid, la question que vous vouliez qu'on vous pose, que vous nous avez dit en tout début de l'émission, alors quand est-ce que vous allez retourner en Algérie?
Je pars le 10 juin, parce qu'évidemment, je ne peux plus me passer de cette Algérie où, avec frères et sœurs, on a construit notre petite maison dans les montagnes de Béjaïa.
Ah. Waouh! Eh bien, bienvenue. Ouais. Marhaba, bienvenue chez vous. Ouais. À Béjaïa, dans les montagnes, super.
C'est un plaisir de t'inviter avec ma famille dès que l'occasion se présente.
Ah, mais avec grand plaisir. Et puis, bah, du coup, je t'invite aussi à Alger. Moi, je suis à Sidi Fred, voilà, en bord de mer.
Eh ben voilà, on organise vos vacances aussi.
Voilà, donc on s'organise.
Ce matin sur dans les belles montagnes de Kabylie. Merci beaucoup, Majid.
Merci à vous. Ciao, ciao.
Ciao, au revoir.
Studio B, l'actu ciné.
L'actu ciné avec le box-office de la dernière semaine de janvier, dominé par Un coup de dé. Le thriller d'Yvan Attal est premier, mais avec un score assez faible, 222 000 spectateurs seulement, j'ai envie de dire. En seconde place, L'étrange mais excellent Pauvre créature avec Emma Stone a été choisi par 130 000 personnes, suivi par May December et ses 120 000 billets vendus. Après une année 2023 où les cinémas avaient repris le sourire, c'est un petit mois de janvier qui se termine globalement avec une petite semaine pour le cinéma, seulement 10 millions de places vendues en un mois, un des plus mauvais chiffres depuis 30 ans. Chaque année, la veille de la cérémonie des Oscars, c'est la remise des Razzie Awards, des récompenses, si on peut utiliser ce mot-là, qui récompense donc les pires films de l'année. La liste des 5 nommés a été révélée, Expendables 4, Shazam 2, Winnie l'ourson du sang et du miel, L'exorciste dévotion et En eau très trouble. Le favori serait Winnie l'ourson. Il faut dire que basculer ce pauvre Winnie dans un univers de films d'horreur était une idée peut-être un peu trop ambitieuse. Après avoir bousculé les opérateurs internet, puis les opérateurs mobiles, Xavier Niel s'attaque maintenant au géant du streaming. Le patron de Free a annoncé une nouvelle offre cette semaine. En plus de l'accès à Internet, il propose toutes les grandes offres de streaming, Canal+, Disney+, Netflix, Amazon Prime et Universal+, pour 50€ par mois, qui passe tout de même à 60€ mensuel au bout d'un an. Petit bémol quand même, ce sont les offres de Disney+, et Netflix avec pub qui sont inclus dans ce forfait. Enfin, si vous vous baladez dans le très chic 5e arrondissement de Paris, vous apercevrez peut-être des tags Emily Fuck Off ou Emily Not Welcome. Ce sont les habitants du quartier qui sont excédés par l'afflux de touristes sur les lieux de tournage de la série Emily in Paris, alors que le tournage de la 4e saison vient juste de commencer. Voilà, merci d'être avec nous, c'est toujours Studio B. On continue de parler du film Ma part de Gaulois avec notre invitée Adila Bendimerad. Elle a ramené un souvenir du tournage, on en parle avec elle juste après la pause. À tout de suite.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe.
Merci d'être avec nous comme chaque dimanche entre 11h et midi sur Beurre FM. On parle de cinéma, c'est Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. On met à l'honneur aujourd'hui Ma part de Gaulois, film de Malik Chiban avec Adila Bendimerad, Abdallah Charki et Lies Salem, adapté du livre de Majid Cherfi, un film dont Beurre FM est le fier partenaire. Adila Bendimerad, vous êtes toujours avec nous, vous restez avec nous jusqu'à midi, si vous le voulez bien en tout cas.
Oui.
On vous a demandé de ramener un souvenir du tournage. On va partager la photo de ce souvenir sur les réseaux sociaux. C'est une photo, je crois.
Oui, c'est une photo.
Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il y a sur cette photo ?
Il y a une poussette et tous les comédiens autour de cette poussette. C'est ma fille qui avait 2 mois, parce que je venais juste d'accoucher et d'avoir un bébé, et qui était venue nous rendre visite sur le plateau. Voilà, c'est vraiment mon souvenir de ce tournage. C'est-à-dire que j'ai beaucoup tourné, mais j'ai un souvenir de bébé, de biberon, de poussette, d'inquiétude, jusqu'au jour en fait, où on tournait une scène un peu compliquée. Dans la mise en scène, elle était assez exigeante et j'avais pas de nouvelles de ma fille. Du coup, j'ai eu un gros trou de mémoire et tout le monde se demandait mais qu'est-ce qu'elle a ? J'arrivais plus. Et voilà, j'étais vraiment dans une ambiance, comme on dit, post-partum, c'est ça ?
Oui.
Et
oui.
Cinéma. Donc c'était assez fou et fort au même temps.
Mais c'est pas facile parce que c'est une période, alors que moi je connais pas, mais
c'est une période
toutes
dingue.
Les fans qui ont un enfant savent que cette période-là est difficile. Émotionnellement, il y a plein d'émotions.
Oui, voilà. Et c'est pour ça que c'est aussi un film où j'ai pas une. C'est-à-dire quand je joue dans ce film, en fait, ça me dépasse. Donc je me suis dit bah voilà c'est comme ça. Mais toute l'équipe du film a été m'a beaucoup protégée. C'était vraiment un beau souvenir, très fort.
Le héros du film c'est Mourad, hein, donc c'est votre fils dans le film. C'est avant tout son histoire, mais Malik Chiban l'a écrit parallèlement et en constante altérité avec le fils, la mère, the mother, pour reprendre l'expression de Majid Sherfi. Ce portrait de femme est au cœur de mon projet. Voilà, ça c'est ce que dit Malik Chiban. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage qui est central dans le film?
Alors déjà qu'on me dise voilà c'est l'histoire de Majid Sherfi et que je sente aussi que le réalisateur lui-même il met beaucoup de sa mère à lui. Déjà, ça me touche beaucoup. C'est-à-dire que j'ai toujours trouvé très émouvant quand des réalisatrices ou des réalisateurs font appel à des actrices pour jouer la maman. Je trouve que c'est leur maman, leur souvenir de la maman. Et je trouve que ça veut dire qu'ils nous confient quelque chose, je crois, une des choses les plus précieuses. Et surtout, un imaginaire. Pouvoir incarner cet imaginaire, incarner ce souvenir, représenter ça aussi, ça en fait un rôle particulier. C'est pas comme juste un personnage de fiction. Voilà, ça représente quelque chose pour les gens qui nous confient ça. Et je suis très honorée, en fait, en tant qu'actrice, qu'on m'accepte dans ce rôle.
Pourquoi c'est si important pour elle que son fils décroche son bac ? Toutes les mères le veulent, évidemment, mais... Elle, c'est une vraie obsession. C'est plus qu'elle le veut. Elle le veut vraiment, vraiment, quoi. C'est très fort.
Alors, moi, comment je le vis dans le film, hein, dans le parcours de mon personnage, c'est-à-dire qu'au départ, c'est un accident. C'est un accident, mais il n'y a pas toujours d'accident parce qu'il y a cet accident de travail. Et elle est très inquiète pour son fils et elle se dit comment je vais le sortir de là.
Oui, parce que son fils, au départ, juste pour contextualiser, il est dans une classe de CAP et il a un camarade qui se blesse.
Voilà. Qui se blesse, voilà, et ce camarade, c'est quelqu'un de proche.
Bien, ouais.
Voilà, et donc elle se dit je vais le sortir de là. C'est un stylo et les feuilles au lycée, ça a l'air quand même moins dangereux. Hein. Et elle, dans ce chemin où elle essaye de comprendre comment fonctionne le système scolaire, elle se rend compte que il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de rebeu dans les photos de classe. Elle comprend qu'il n'y a pas exactement la même égalité des chances, en fait. Et là, elle se dit, mais pourquoi pas mon fils ? En quoi mon fils ne peut pas ? Donc, nous, on appelle ça « shahna » en Algérie. C'est-à-dire, je vais le faire. C'est le challenge, quoi. Ouais. Puisque c'est comme ça, puisque cette porte nous est fermée, moi, mon fils, il y aura le droit. Donc, elle va pousser son fils. Et ensuite, ça je pense que ça fait revivre en elle des souvenirs de sa famille, de son histoire familiale. C'est des gens qui savaient lire et écrire. La guerre, elle raconte la guerre qui a fait qu'il y a eu cette rupture dans la transmission. Et donc, c'est elle, en fait, qui a envie de passer son bac. Oui, c'est elle. C'est son bac, au final.
Indirectement, elle le passe.
Pour moi, c'est elle qui le passe, oui. C'est-à-dire que c'est tous ses espoirs.
Enfin, c'est pas elle qui travaille.
Non, mais elle le fait travailler.
Elle le fait travailler, c'est ça. On vous avait reçu au printemps dernier pour La Dernière Reine, que vous avez co-réalisé, où vous jouiez le rôle de la reine Zafira. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Zafira et Nassira ?
Le fils.
Oui.
Ben c'est vrai, elles ont le fils en commun. Ça, c'est très frappant. Elles ont leur fils et elles ont des ambitions pour leur fils que leur fils n'a pas forcément.
c'est drôle, ça dit beaucoup de choses aussi, c'est-à-dire ce qu'elle, en tant que femme, qu'on soit reine ou issue de la classe ouvrière, immigrée des années 70, ou reine d'Alger, dans un palais, il y a quelque chose aussi qu'en tant que femme, on n'a pas pu réaliser, en tant que... Et il y a quelque part une envie de vivre son ambition à travers ses enfants.
J'avais vu une volonté aussi, une volonté forte, une direction. C'est Nassira, c'est le capitaine.
Ah oui, mais Nassira, c'est quelque chose. Hein. C'est, oui, oui, c'est le capitaine. L'autre, elle veut être la reine. Enfin, elle veut le pouvoir, quoi.
Et c'est ça.
Oui.
Ma part de Gaulois, c'est basé sur une biographie, mais c'est aussi une comédie. Le film est annoncé comme une comédie. Il a d'ailleurs été, donc, comme on en parlait, au Festival de l'Alpe d'Huez. C'est votre première comédie, si je ne me trompe pas. Comment avez-vous abordé ce genre ?
Alors, c'est ma première comédie au cinéma, parce qu'au cinéma, on m'appelle beaucoup pour faire du drame, de la tragédie. Par contre, je viens de la comédie, enfin, au niveau du théâtre. C'est vraiment la première chose que je fais quand je monte sur scène. C'était un metteur en scène, Jean-Jacques Devaux, quand j'étais, c'était au Point Virgule à l'époque. Je prenais des cours et je jouais un texte, et quand j'ai entendu le public rire, enfin, j'étais persuadée que j'étais pas drôle. Parce que j'ai deux grands frères qui sont drôles, ils font des blagues tout le temps, et dès que j'en fais une, personne rigole. Bon, d'accord. Donc quand je fais du théâtre, je monte sur scène. Et je commence ma première phrase et j'entends un fou rire du public. Et là, j'ai quelque chose qui s'est déclenché tout de suite pour la comédie, qui est très puissant, qui fait un bien fou, qui m'a fait aussi beaucoup aimer et fait choisir ce métier, c'est la comédie. Je sais, quand vous voyez mes films, je meurs tout le temps à la fin, c'est super triste. D'ailleurs, je ne meurs pas Gaulois.
C'est une bonne chose.
Mais oui, je ne meurs pas. Et non, c'était un retour aux sources. C'était comme pour un footballeur de dribbler pour le plaisir, pour dégourdir les jambes, se faire du bien. Non, la comédie, c'est plein d'humanité.
Ma part de Gaulois en salle depuis mercredi. On a aussi parlé tout à l'heure, j'ai évoqué votre précédent film, La Dernière Reine, 75 000 entrées en France.
85 000.
tout augmente. J'ai pris des anciens chiffres. Donc 85 000, c'est encore plus un beau chiffre. En France déjà, mais il a aussi eu un beau parcours à l'étranger.
Oui, c'est
parce
vrai.
Que quand vous êtes venu nous présenter, vous ne saviez pas encore quel parcours il aurait à l'étranger. Vous aviez de l'espérance qu'il aille notamment en Algérie.
Oui.
Et ça a été le cas. Ça a été une belle aventure, je crois. Moi, j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est-à-dire qu'en Algérie, ce qui s'est passé, on a très peu de salles. Il est sorti dans peu de salles parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui fonctionnaient à ce moment-là. Et je crois qu'on a battu un record quand même historique. En une semaine, les salles étaient pleines. Et sur 9 salles, on a fait 15 000 entrées la première semaine. C'est énorme en taux de remplissage. Et il y avait aussi, c'était pendant la canicule, mais il y avait la queue dehors. Tous les cinémas, à chaque séance, il y avait un monde fou dehors pour entrer voir le film. Comment vous dire ? J'aurais jamais imaginé. Je l'ai beaucoup espéré. Mais c'est formidable quand ça arrive.
Des projections avec toute l'équipe en plus.
Oui, puis on a fait aussi, comme on a vu qu'il y avait un déferlement de monde dans les salles, on a fait des apparitions surprises, parce que nous aussi on avait envie de rencontrer notre public et de le remercier aussi. Donc des fois on arrivait en salle sans que les gens sachent qu'on était là, et on entendait donc le public se lever, applaudissait, faisait des you-you, on n'en revenait pas, quoi. Et donc ensuite, quand ils nous rencontraient, c'était les cris de joie. Et on s'est rendu compte de l'impact que ça représente, que c'était quelque chose de vraiment inédit pour les Algériens de voir un film qui raconte leur histoire au XVIe siècle. C'était la première fois. Et on a compris aussi de l'importance que c'est, le film historique, et pour construire l'identité, pour les émotions, enfin pour avoir sur quoi s'adosser, quoi, se dire ah, on vient de là aussi, voilà.
Deux mots sur vos projets peut-être. On vous annonce notamment au casting de Barbès d'Or, un autre film peut-être cette année.
Oui, un autre film donc de Hassan Guérard, avec en acteur principal Fianso, Sofiane Zermani, et Khaled Benaïssa, un acteur algérien aussi qui est sur ce film. Belle aventure aussi, j'ai hâte de voir ce film. Vraiment, j'ai hâte.
Il n'y a pas de date de sortie qui sont indiquées pour l'instant. Peut-être
bientôt, plus la fin de l'année. Je pense que bientôt, ça sera annoncé, oui.
Bon, peut-être que vous reviendrez nous voir, du coup.
Bah, moi, je veux bien, si vous m'invitez.
Au bout de trois émissions, la quatrième est gratuite.
Jamais deux. Moi, j'aurais dit jamais 203.
Jamais 203, c'est mieux. Je hein? préfère cette veston-là. Merci beaucoup, Adila Benimera, d'être passée ce matin sur Beurre FM. On rappelle, Ma part de Gaulois, c'est en salle, un film en partenariat avec Beurre FM. C'est en salle depuis mercredi. Donc là, vous pouvez aller le voir. L'émission se termine. Vous pouvez aller sur votre appli, réserver votre séance de ciné et vous allez le voir cet après-midi, par exemple, ou demain, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un film qui vaut vraiment le coup. Beaucoup d'émotions, on rigole, un film touchant. Voilà, Ma part de Gaulois, tiré du livre de Majid Cherfi, qui était avec nous au début d'émission. Film de Malik Chiban, donc avec vous, Adila Bendimerad, avec également Abdallah Cherki et Lies Salem. La suite du programme sur Beurre FM, c'est votre week-end magazine qui continue. On va retrouver Philippe Robichon, le Book Club. Vous retrouvez cette émission, si vous avez raté le début, déjà en podcast sur beurrefm.net, sur l'application et sur tous les sites de podcast. On se retrouve dimanche prochain, 11h midi. On parlera d'une série, la série Grand Palais Shisha Lounge. D'ici là, n'en doutez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma. Bon dimanche.
Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.